Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Cette semaine, c'est le rôle des économistes dans la cité que nous examinons. Quelle est au juste la vocation des chercheurs en économie aujourd'hui ? Comment la discipline évolue-t-elle entre équations mathématiques et méthodes empiriques ? Et à quoi sert la recherche sur la création et la répartition des richesses ? Notre invité du jour a reçu le prix du meilleur jeune économiste de France et le magazine The Economist l'a classé parmi les 8 meilleurs chercheurs en économie de la planète. Elle est née en Bulgarie, a vécu en Allemagne de l'Est, en France et au Royaume-Uni et à 33 ans, elle est professeure à Harvard. Bonjour Stéphanie Sancheva.
Bonjour, et je suis ravie d'être ici.
Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de votre ascension fulgurante dans le monde de la recherche et de la réflexion que vous menez depuis des années sur la fiscalité. Comment concevoir un système fiscal redistributif sans freiner l'activité économique ? C'est la question à laquelle vous tentez de répondre en vous appuyant sur des enquêtes et des modèles mathématiques. Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui depuis Harvard. Alors pour commencer, un premier mot à Stéphanie Sancheva sur ce prix du meilleur jeune économiste de France, décerné chaque année par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. C'est important pour vous, cette reconnaissance française ?
Oui, absolument. C'était un prix qui m'a fait d'autant plus plaisir qu'il reflète un peu exactement le rôle des économistes, selon moi, qui est une combinaison d'un travail purement scientifique pour étudier et prédire les effets des différentes politiques et évolutions économiques. Mais également, c'est un prix qui récompense un travail d'information, que ce soit d'informer la société ou les politiques. Et donc, c'est quelque chose qui m'a fait particulièrement plaisir venant de la France, bien sûr.
Alors, on va revenir, bien sûr, sur votre conception du métier d'économiste. Mais d'abord, en 2005, c'est Esther Duflo qui recevait ce prix du meilleur jeune économiste. Et cette année, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel d'économie aux côtés de deux de ses co-auteurs, Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'attribution de ce Nobel, vous qui avez travaillé avec Esther Duflo ?
J'étais très, très, très heureuse. Esther est quelqu'un qui a été un mentor vraiment fabuleux pour moi, qui m'a énormément influencée. J'étais très inspirée par elle en tant que modèle d'économiste. Et du coup, c'était un prix qui est non seulement très mérité, mais qui va inspirer, je pense, beaucoup de jeunes gens.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Esther Duflo ?
Esther, en fait, a vraiment porté un tout nouveau regard sur l'économie en apportant de toutes nouvelles méthodes, des méthodes expérimentales qui étaient utilisées avant dans la médecine, dans d'autres sciences comme la physique, la biologie, mais qui étaient beaucoup moins utilisées en économie. Et elle a non seulement apporté ces méthodes, mais elle les a appliquées à des sujets extrêmement importants comme la lutte contre la pauvreté, quelle politique à un niveau très, très micro, très individuel au niveau des ménages, des entreprises peuvent marcher pour améliorer la situation des gens. Et c'est cette combinaison incroyable de questions très importantes et de méthodes nouvelles et rigoureuses qui m'a énormément inspirée. Et elle m'a vraiment appris comment poser des questions pertinentes et comment construire un programme de recherche qui puisse permettre d'y répondre.
Alors avant de venir aux économistes qui ont pu vous inspirer, vous donner envie de devenir vous-même chercheuse en économie, Stéphanie Sancheva, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine de recherche sur un plan plus personnel de votre expérience à vous ?
Oui, j'ai été passionnée par l'économie en fait depuis toute jeune et même avant de savoir que c'était des questions d'économie, il y avait des questions qui vraiment me passionnaient. Donc je suis née en Bulgarie, j'ai habité quelque temps en Allemagne de l'Est avant de venir en France et j'ai pu voir beaucoup de systèmes économiques et sociaux différents et j'ai toujours eu des questions qui me sont apparues à cause de ça. Donc par exemple, il y avait une hyperinflation en Bulgarie en 96 quand j'étais encore enfant. Et je ne savais pas ce qu'est une hyperinflation, c'est-à-dire une augmentation très, très brusque de prix. Mais c'était fascinant de voir ça et je me posais la question, pourquoi est-ce que ça arrive ? En France, je me demandais pourquoi il y a des SDF qui dorment à côté de restaurants chics. Comment est-ce possible qu'il y ait ça ? Et donc toutes ces questions, quand j'ai compris que c'est l'économie, la discipline qui pouvaient peut-être y répondre. C'est là que j'ai décidé de devenir économiste.
Et qu'est-ce qui avait provoqué cette hyperinflation en Bulgarie? Est-ce que vous en avez vu, vous, les effets très concrètement? Quels souvenirs est-ce que vous en avez?
Alors, il y a encore un débat sur qu'est-ce qui exactement l'a causé, mais c'était un niveau très fondamental. C'était la transition du régime communiste vers le régime de marché et le fait que la monnaie avait été libérée, le taux de change avait été libéré. Mais les conséquences étaient vraiment dramatiques sur les personnes. Les épargnes sont parties en fumée et il y avait toute une déstabilisation énorme. Imaginez si les prix augmentent chaque jour de façon très très brusque. Personne ne veut garder de l'argent liquide. Tout le monde essaie de le dépenser au plus vite et ça fait encore plus augmenter les prix. Et à moins qu'il y ait une intervention très forte, soit pour fixer le taux de change, soit pour réduire l'apport en monnaie, ça mène à une spirale infernale. Mais donc ça, c'était un exemple de phénomène comme ça, les phénomènes d'inégalité entre les salaires dans différents pays ou même au sein d'une même ville pour différentes personnes, sont vraiment des questions qui me passionnaient.
Oui, vous avez parlé du fait que vous étiez interpellé dans votre jeunesse par la différence de salaire entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est où vous avez vécu. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui, Stéphanie Stancheva, sur les inégalités qui demeurent entre l'Est et l'Ouest en Allemagne 30 ans après la chute du mur?
Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il y a tout un nouveau programme de recherche lancé par des chercheurs avec de très bonnes données qui existent maintenant pour comprendre pourquoi, en fait, même 30 ans plus tard, l'Allemagne de l'Est n'est toujours pas arrivée au niveau de productivité et de compétitivité de l'Allemagne de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de migration de l'Est vers l'Ouest. Il y a eu très peu de migration dans l'autre sens. Il y a eu beaucoup moins d'innovation, beaucoup moins de gains en productivité. Et donc, il y a plusieurs explications qui sont proposées, des explications plutôt institutionnelles que les institutions n'ont pas pu changer assez rapidement pour s'adapter, ou simplement le fait que à cause de la migration, beaucoup de talent est parti. Il y a plein d'explications et on n'a pas encore la réponse en fait, mais ça sera un programme de recherche vraiment intéressant dans les années à venir.
Et alors, on a parlé d'Esther Duflo. Quelles sont les autres figures qui vous ont décidé à vous lancer dans la recherche en économie, Stéphanie Stancheva?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des mentors et des inspirations très très bonnes au cours de mon parcours scolaire. Et c'est assez intéressant qu'il y a beaucoup d'économistes parmi eux qui sont en fait français. Donc en plus d'Esther, quand je suis arrivée au MIT, Massachusetts Institute of Technology, où j'ai fait mon doctorat, j'ai eu la chance d'avoir Emmanuel Saez, un autre des lauréats du prix du meilleur jeune économiste français, qui était en visite et j'ai pris son cours d'économie publique, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur en fait ce qui est devenu ma spécialisation, qui sont les impôts et la fiscalité. Et j'ai énormément bénéficié de son influence à lui. Et j'ai eu énormément de chance de travailler avec des advisors qui sont des directeurs de thèse extrêmement attentionnés, Ivan Vernin au MIT et Jim Poterba. Et ensuite de découvrir des nouveaux co-auteurs quand je suis arrivée à Harvard, dont Philippe Aguillon, qui est maintenant au Collège de France, et Alberto Alesina, qui travaille en économie politique, qui est italien et avec qui j'ai beaucoup de projets sur des enquêtes pour comprendre les perceptions des gens.
On va entendre Philippe Aguillon un peu plus tard dans cette émission, mais d'abord un mot sur votre parcours, parce que vous êtes passé par les meilleures écoles, Stéphanie Stancheva, Cambridge, Polytechnique, l'ENSAE, qui est donc l'École nationale de la statistique et de l'administration. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces différentes formations? Qu'est-ce que vous en retenez?
Alors, à nouveau, je pense que j'ai eu énormément de chance avec les formations que j'ai faites, parce que chacune m'a apporter quelque chose d'un peu différent. J'ai commencé par Cambridge, en Angleterre, où j'ai vraiment appris, en fait, de travailler de façon extrêmement autonome. Le modèle anglais, c'est d'avoir très peu de cours et des listes de lecture, des reading lists, comme ils l'appellent, très, très longues. Et donc, on a beaucoup de temps à juste lire, à découvrir soi-même et à apprendre soi-même. Et donc, ça nous apprend vraiment à être autodidacte et à aller creuser des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Il y a une énorme autonomie. Ça, c'était extrêmement important. Je suis ensuite revenue en France, à Polytechnique et à l'ENSAE et à l'École d'économie de Paris aussi. Et là, c'est surtout le côté très rigoureux, très technique, qui était extrêmement important. Et ça m'a énormément apporté ensuite pour mon doctorat. Je pense que l'éducation en France est très, très pointue, avec toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles méthodes qui sont très bien transmises aux étudiants. Et c'était un énorme avantage pour moi.
On dit souvent que l'atout en France, c'est la qualité des cours en mathématiques. Vous êtes d'accord avec cela?
Je pense que les cours en mathématiques sont vraiment excellents en France et ça commence, je pense, depuis un très, très jeune âge. Ce que j'ai appris aux États-Unis, maintenant que j'enseigne moi-même, c'est que générer l'intérêt des étudiants et leur montrer à quoi ça va servir est extrêmement important. Et ça, c'est très, très bien fait aux États-Unis, où on essaye dès le départ, en fait, de motiver les étudiants avec le but final, en quelque sorte. Et du coup, ça les motive à passer parfois d'innombrables heures très, très difficiles à apprendre des techniques très rigoureuses. Et donc, je pense que la formation en France est absolument excellente du point de vue technique. Et c'est en fait un peu tard, plus tard, que j'ai compris à quoi tout ça allait me servir. J'ai toujours énormément travaillé, énormément appris par juste l'amour des mathématiques, mais c'est vraiment plus tard, en fait, que j'ai compris toute l'utilité.
On a parlé d'Esther Duflo, je vous propose maintenant de l'écouter.
Increasingly, economists get a chance to
De plus en plus, les économistes ont la possibilité de s'exprimer à propos des politiques et des institutions les plus variées. Par le passé, vous le savez, les économistes, les macroéconomistes, étaient seulement interrogés sur les taux d'intérêt. Mais maintenant, en tant que profession, nous avons à déterminer des enchères pour le haut débit, des mécanismes de répartition des étudiants dans les écoles, des marchés pour le don de rein, des politiques sociales, différentes manières de gérer les fermes. Dès lors, non seulement nous avons besoin d'être capables de faire des prescriptions générales en ce qui concerne les politiques publiques, mais aussi de faire des recommandations détaillées sur la manière de mettre en œuvre des politiques précises et de suivre ce qu'il en advient par la suite. Est-ce ce que nous avions prévu? Devrions-nous changer cette politique, etc.
Stéphanie Stancheva, à partir de ce que nous dit ici Esther Duflo, quel serait, selon vous, le rôle de l'économiste dans la cité?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Esther que le domaine de l'économie s'est en fait vraiment étendu. On parle de questions qui sont des questions, avant, on ne considérait pas forcément des questions économiques. Par exemple, je vous parlerai sûrement plus tard des choses que j'étudie sur les perceptions des gens, sur comment ils forment leurs attitudes et leurs vues sur différentes politiques. Donc, on touche à beaucoup plus de thèmes qu'avant. Et ce qui, en fait, unifie toutes ces recherches, c'est une rigueur de méthode. C'est en quelque part appliquer la méthode scientifique à toutes ces questions. Et donc, que ce soit à travers des données ou à travers des modèles qu'ensuite on va estimer ou discipliner dans les données ou à travers des expériences, comme le fait Esther ou comme je le fais parfois aussi. C'est toutes ces méthodes rigoureuses d'approche scientifique qui unifie toutes ces recherches. Et d'après moi, le rôle des économistes, c'est vraiment un travail scientifique, c'est un rôle de scientifique. On pose une question, on forme une théorie qui est falsifiable, c'est-à-dire qui peut être rejetée par les données, et ensuite on va se plonger dans les données pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Et c'est un rôle, en fait, on est là pour étudier et prédire les effets des différentes politiques, les effets des évolutions économiques. Et ensuite, je pense qu'on a un rôle d'informer de façon la plus neutre possible, de façon la moins partisane possible, la société et les politiques.
Et alors justement, quelle est la méthodologie que vous utilisez? Et est-ce que cette méthodologie a évolué depuis des travaux peut-être plus théoriques vers des méthodes plus empiriques?
Alors je travaille en fait sur plusieurs thèmes qui sont tous sous le grand thème de la fiscalité. Mais au sein de ce grand thème, j'étudie plusieurs choses et avec des méthodes en fait assez différentes. Donc, ma recherche s'axe autour de vraiment trois thèmes principaux et que j'explore de façon et théorique, c'est-à-dire avec des modèles, et empirique, c'est-à-dire avec des données. Et donc, le premier thème, c'est quels sont un peu les effets à long terme de la fiscalité qui ont été très, très peu explorés. Donc, par exemple, pensez à l'innovation, l'entrepreneuriat, la mobilité géographique des gens. Donc, est-ce que la fiscalité va influencer tout ça? Ce sont des effets qui sont beaucoup à long terme. Ensuite, j'étudie ce qui détermine nos attitudes en tant que société envers les différentes politiques et la redistribution. Et pour ça, j'ai introduit et je développe un tout nouveau outil qui sont des enquêtes et des expériences de grande envergure en ligne. Donc, c'est une sorte de nouveau laboratoire social que je développe et qui me permet d'explorer les perceptions et les préférences qui conduisent différents groupes à soutenir certaines politiques plutôt que d'autres. Et c'est une méthodologie qui me semble cruciale car il y a des choses qui sont impossibles à voir dans d'autres données, aussi bonnes soient-elles, ils sont des choses intangibles comme les perceptions, les préférences, les attitudes. Et la troisième chose que j'utilise, c'est comment penser aux impôts dans un monde qui n'est pas aussi, entre guillemets, parfait et sans friction, comme dans beaucoup de modèles économiques. Donc, par exemple, si les gens ne comprennent pas bien le système des impôts, les réactions ne vont pas être les mêmes. Si le système est trop complexe, ça aura des effets différents qu'un système simple. Donc toutes ces frictions, j'essaie d'étudier et de les discipliner également. Et donc il y a des méthodes très différentes dans tous ces cas-là.
Et ce sont des méthodes qui sont aussi utilisées par un autre économiste que vous avez cité, Emmanuel Saez.
J'ai commencé à étudier les mathématiques en France, mais j'ai toujours été intéressé plus largement par les sciences sociales. Et puis j'ai découvert qu'avec les mathématiques, on pouvait en fait étudier les problèmes concrets du monde dans le champ de l'analyse économique. Nous, les économistes, nous nous intéressons aux conséquences des politiques publiques. Comment les personnes répondent à des incitations, à des taxes, etc. Connaître la manière dont les personnes réagissent à des programmes spécifiques, à un panel d'incitations, c'est essentiel pour évaluer le potentiel d'un programme politique. La meilleure méthode pour déterminer quel est l'effet d'une politique gouvernementale est d'adopter une méthode vraiment scientifique. Quand vous informez des gens des évolutions en matière d'égalité, je crois qu'intrinsèquement, l'étude des inégalités est intéressante, précisément parce que les gens ordinaires, sont attachés à cette question. Quand ils voient les statistiques sur les inégalités de revenus ou l'augmentation de la pauvreté, ils réagissent avec vigueur. Cela a un impact sur la manière dont ils se sentent et, au-delà, sur les décisions qu'ils prendront dans l'arène politique.
Voilà l'économiste Emmanuel Saez. Vous vous reconnaissez dans ses propos, Stéphanie Tancheva ?
Oui, je me reconnais parfaitement dans ses propos. Et Emmanuel a été une très grande influence sur moi et on travaille encore ensemble sur plusieurs projets. Donc, je me reconnais entièrement. Et une chose qu'il a soulignée, qui est absolument vraie, et c'est ce grand thème que j'aborde, c'est ce que les gens savent, perçoivent et quelles sont en gros leurs attitudes sociales qui vont déterminer quelles politiques ils vont soutenir. Il a dit que les gens ont des considérations beaucoup plus complexes et variées que celles que les économistes ont pris en compte jusque-là, et c'est tout à fait vrai. Et je peux vous donner deux exemples assez frappants sur lesquels j'ai travaillé récemment dans ce thème. La première considération, par exemple, à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que les gens ne vont pas du tout percevoir le même revenu de la même façon s'il est gagné de façon juste et méritée ou s'il n'est pas gagné de façon juste et méritée, par exemple s'il est hérité. Et les gens ne se soucient donc pas juste de la distribution des revenus telle qu'elle, mais également d'où elle provient. Et ça conduit naturellement au thème de la mobilité sociale et de l'égalité des chances. Et on a fait une très grande étude sur plus de 20 000 personnes dans 6 pays, donc avec ce nouvel outil d'enquête en ligne de grande envergure. Et en fait, je montre que plus les gens croient dans la mobilité sociale, c'est-à-dire en l'égalité des chances, moins ils pensent qu'il y a un besoin de redistribution. Donc, plus on croit à l'égalité des chances, plus on est prêt à tolérer l'inégalité de revenus qui en résulte, et vice-versa. Mais le problème, c'est que la perception des gens sur la mobilité sociale est en fait assez fausse. Donc, en Europe en général, et en France en particulier, on est beaucoup trop pessimiste. Donc, d'après les données, il y a plus de chances pour quelqu'un provenant de milieux défavorisés de s'en sortir que ce qu'on pense. Les chances ne sont pas très hautes, mais elles sont mieux que ce qu'on croit. Et aux États-Unis, au contraire, la mobilité est en fait plus basse qu'en Europe, mais les gens sont beaucoup trop optimistes sur ce rêve américain, c'est-à-dire sur cette probabilité de devenir riche en grandissant dans un milieu pauvre. Et c'est très cohérent avec le fait qu'aux États-Unis, on soutient beaucoup moins de redistribution, c'est-à-dire beaucoup moins de systèmes d'impôts progressifs, d'assurance sociale, parce qu'on pense que on peut s'en sortir si on travaille dur.
Alors ce rêve américain, il a été porté et diffusé à travers la fiction et aussi la publicité.
The Bryants have had opportunity for individual expression in this and other interiors throughout the house. In their selection of such things as wall and floor coverings and the accent colors of fixtures and appointments. The patio, easily reached through sliding glass doors, provides an outdoor living room, ideal for separate activities.
La publicité, Stéphanie Stancheva, a contribué à créer ce rêve, cette idée que finalement la mobilité sociale est à la portée de chaque citoyen américain.
Je pense que les médias en général, la publicité entre autres, ont vraiment contribué à tout ça. Donc le rêve américain, si on croit les données historiques, en tout cas pour une partie de la population américaine, c'était un fait. C'était vraiment un rêve qui existait. On pouvait venir dans ce pays et s'en sortir avec du travail dur. Mais au cours du temps, ce qu'on montre les données, c'est que ces chances ont vraiment diminué. Et donc, il y a de moins en moins de mobilité sociale aux États-Unis et qu'elle est seulement concentrée dans certaines régions géographiques, alors qu'il y a des régions géographiques qui sont totalement immobiles, en quelque sorte, socialement.
Lesquelles ?
Donc, en fait, c'est le Sud-Est qui est très immobile, donc les États du Sud-Est, alors que des États comme le Massachusetts, la Californie ou le Nord-Ouest sont beaucoup plus mobiles. C'est-à-dire des enfants qui sont nés dans ces endroits-là vont vraiment avoir une grande mobilité sociale. S'ils sont nés dans le bas de la distribution, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir au cours de leur vie. Alors que les États du Sud-Est sont vraiment très sclérosés dans ce sens.
Et vous dites que les individus ont une perception éventuellement faussée de la mobilité sociale. Mais alors, est-ce qu'on peut changer, selon vous, l'opinion des gens en leur apportant un certain nombre d'informations ?
Alors, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte que ces perceptions ne sont pas forcément justes, on est passé à la deuxième partie du projet qui est donc ce deuxième pendant de la méthode, qui est de faire des expériences. Et ce que je veux dire par expérience, c'est de montrer à un groupe de personnes un certain type d'informations. C'est des informations qui sont toujours justes. On ne donne jamais aucune information fausse. Et à un autre groupe de personnes, on montre une autre information. Et un groupe, par exemple, ne voit aucune information. Et cette allocation est faite de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'ensuite, on peut comparer les perceptions, le soutien pour les différentes politiques, etc., des différents groupes, en fonction de l'information qu'ils ont vue. Et ce qu'on voit, c'est que si dans tous ces 6 pays dans lesquels on a fait cette grande enquête sur la mobilité sociale, si on montre aux gens la réalité, et donc par exemple aux États-Unis, on montre aux gens que la mobilité est moins forte que ce qu'ils pensent, ce qui se passe est très intéressant. Donc les gens qui sont à gauche, plutôt à gauche du centre politique, demandent plus de redistribution. Ils voudraient plus d'intervention du gouvernement, que ce soit un impôt plus progressif, plus d'assurance sociale, plus d'éducation publique, plus d'aide pour la santé et plus d'impôts sur les fortunes et d'impôts sur les héritages.
Mais ce n'est pas le cas des gens situés plus à droite.
Pas du tout. Il n'y a aucun mouvement à droite. Donc, à droite, même si les gens deviennent plus pessimistes sur la mobilité sociale, c'est-à-dire ils croient l'information, ils comprennent que c'est un problème, ils disent oui, c'est un problème sérieux, mais ne veulent pas que ce soit le gouvernement qui fasse quelque chose contre. Donc, à droite, et c'est pas seulement le cas aux États-Unis, c'est également le cas dans les pays européens, les gens n'aiment pas tellement l'intervention du gouvernement et pensent que le gouvernement, en fait, fait quelque part plus partie du problème que de la solution. Donc, les gens ont une vue assez négative, pas d'un gouvernement spécifique, mais de l'institution du gouvernement en général, dans le sens que le gouvernement n'a pas les capacités, n'a pas les bonnes ambitions, n'a pas les bonnes priorités et n'a simplement pas les moyens d'agir contre les grands thèmes comme la mobilité ou l'inégalité.
Alors que selon vous, parmi les facteurs qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans les politiques fiscales, le capital humain est central, un capital qui aura un impact tout au long de la vie pour les individus.
Oui, tout à fait. Le capital humain est quelque chose d'extrêmement important. On peut y penser vraiment comme un capital physique. Donc, c'est quelque chose dans lequel on investit. On investit tout au long de l'enfance. Dans ce cas-là, les investissements viennent surtout des parents. Ensuite, on investit dans l'éducation formelle, que ce soit l'éducation secondaire, l'éducation supérieure. On peut aller aussi loin qu'on veut. Et ensuite, on continue en fait à investir. Quand on commence à travailler, on a un entraînement qui vient avec le travail, ce qui s'appelle apprendre en faisant, learning by doing, techniquement. On peut également faire des formations spécialisées. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui se passe tout au long de la vie, comme un investissement, et qui ensuite a un rendement. Et ce rendement, c'est des salaires plus élevés, de meilleurs revenus. Et le capital humain, en fait, pour beaucoup de gens, c'est aujourd'hui le seul capital. C'est-à-dire que le capital physique, donc l'épargne, l'actionnariat, c'est quelque chose qui est très concentré en fait dans beaucoup de pays. C'est beaucoup plus concentré, donc beaucoup plus inégal que les revenus du travail. Et donc le capital humain, c'est vraiment le capital majeur de beaucoup de personnes. Et donc c'est une question très importante qu'il faut adresser et à laquelle il faut penser en tant qu'économiste.
Parce que vous dites qu'il faut, ça ne sert à rien par exemple de subventionner ceux qui ont déjà beaucoup de capital humain, alors que il ne faut pas trop taxer l'héritage des parents de ceux qui disposent d'un faible capital humain et d'un faible revenu.
Alors j'ai beaucoup travaillé sur comment financer le capital humain, c'est-à-dire comment permettre aux gens d'acquérir le capital humain dont ils auront besoin et quelle est la meilleure configuration de ces politiques. Et donc, si on pense au capital humain dans ce sens large que je viens d'expliquer, l'éducation formelle, l'entraînement dans le travail, il y a une sorte de tension entre donner plus de, par exemple, plus de subventions, plus de financement pour le capital humain et l'inégalité parfois. Parce que souvent, ces interventions, ces investissements publics dans le capital humain bénéficient en fait des gens, des enfants, des jeunes gens ou des adultes qui en fait sont déjà, qui ont déjà beaucoup de capital humain et qui sont déjà en fait très, très bien placés. Souvent, les investissements en fait augmentent davantage l'inégalité puisqu'ils bénéficient ce type de personnes. Et donc, ce que je montre, c'est qu'il faut pouvoir trouver des investissements qui en fait égalisent plus les chances, donc des investissements qui vont réussir à bénéficier même aux personnes qui sont défavorisées pour l'instant. Et c'est une question qui est extrêmement importante actuellement parce qu'avec l'augmentation de l'expérience de vie et donc l'augmentation du temps dans le marché du travail, ce qui se passe, c'est que c'est difficile d'acquérir du capital humain, des connaissances, de l'éducation une seule fois et plus jamais. Et donc, on va naturellement se diriger vers un système où on va devoir réacquérir des compétences, des connaissances tout au long de la vie, en quelque sorte. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que toutes ces nouvelles éducations qui apparaissent, parfois que les entreprises font elles-mêmes ou que d'autres entreprises spécialisées offrent aux employés, etc., en fait, c'est des formations qui demandent déjà qu'on ait une éducation assez poussée. Donc, c'est des formations qui bénéficient surtout aux gens qui ont déjà beaucoup d'éducation. Les gens qui sont dans des professions très peu qualifiées ont beaucoup de mal à se reconvertir et à réacquérir tout ce genre de compétences. Et donc, il faut pousser pour aussi des programmes qui permettent, même aux personnes qui commencent assez bas en termes d'éducation et en termes de capital humain, de pouvoir réinvestir et de pouvoir se redévelopper.
Vous parliez, Stéphanie Stancheva, de cette défiance aux États-Unis envers le système de redistribution et envers la taxation en général pour un certain nombre d'Américains. Je vous propose d'écouter Ronald Reagan qui part en guerre contre les taxes, c'était dans les années 80.
Trop longtemps, nous avons vécu dans un système fiscal qui est une tache, une souillure sur le brillant manteau de notre démocratique gouvernement. Nous avons toléré sans mot dire un régime fiscal que nous savons être un scandale. Un régime mystérieux marqué par des privilèges spéciaux et des inégalités qui violent les valeurs américaines les plus fondamentales de justice et de fair-play. Comme je l'ai dit la nuit dernière, et je parie que beaucoup parmi vous seront d'accord là-dessus, dans son esprit et sa substance même, notre système fiscal ne peut être décrit que comme un système anti-américain. Alors nous avons deux solutions. Nous pouvons soit déclarer ce 15 avril journée de deuil national, soit changer le système. Et je ne pense pas que les Américains puissent identifier une injustice sans tenter de la réparer.
Voilà, une guerre contre les taxes lancée dans les années 80. Et puis, depuis, Donald Trump a mené une grande réforme fiscale en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez de cette grande réforme fiscale, Stéphanie Stancheva?
Alors, il faudra encore étudier les effets de cette réforme fiscale. Et je sais que les économistes se sont lancés et je me suis également lancée dans les données. Il va nous falloir quelque temps pour pouvoir voir les effets que ça a eu. Une des choses que j'utilise, c'est les effets à plus long terme, et donc ça sera intéressant de voir ce qui se passe. Mais c'est très intéressant dans le discours de Ronald Reagan, et ça a été beaucoup mentionné à nouveau dans la réforme. Ce qu'on voit clairement, c'est que les impôts suscitent des réactions très, très viscérales. Donc, les impôts, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, a déclenché des guerres, l'expansion et la chute d'empires, et aujourd'hui encore cause des révoltes sociales ou peut gâcher entièrement les déjeuners de famille. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent et totalement puissant. Et c'est un petit changement d'impôt pour de bonnes ou de mauvaises raisons, comme dans toutes ces réformes, a des répercussions et des effets de cascade sur toute l'économie et sur toutes les personnes. Et ce qu'on comprend parfois plus ou moins, c'est que, en fait, les impôts, c'est une partie intégrale de la vie. Ils sont omniprésents. On est tout le temps soumis à toutes sortes d'impôts, de taxes, de transferts, tous les jours et tout le temps. Et parfois, on s'en rend compte très explicitement, et je dirais même très douloureusement, quand on signe un chèque au gouvernement. Mais parfois, ça passe presque inaperçu. Donc, quand on paye la TVA, ou qu'on paye des charges employeur ou employé, ça se voit presque pas. Et toutes ces réformes essayent de trouver une meilleure solution, comment réussir à lever des fonds et redistribuer sans freiner la croissance, la compétitivité, le progrès. Mais c'est vraiment une question extrêmement difficile et c'est ce que j'essaye d'étudier.
Vous parlez d'une question difficile. En effet, en France, il y a eu le débat sur l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et vous avez publié en 2016, avec Thomas Piketty et Emmanuel Seize, un article en anglais que l'on peut traduire ainsi. Taxer les 1%, pourquoi le taux de taxation le plus élevé pourrait dépasser 80%? Est-ce que vous êtes partisane d'une taxation de 80% des plus hauts revenus? Est-ce que vous ne craignez pas une fuite massive des grandes fortunes?
Alors, je suis absolument partisane de rien. Cet article est un article purement, purement scientifique. Donc, ce qu'on fait, c'est de proposer un modèle de comment les revenus sont créés. Et une partie des revenus peut être en fait une rente, c'est-à-dire un revenu qui n'est pas un revenu productif créé par le travail ou les efforts, mais qui est un revenu qui est extrait de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, quand on a un pouvoir de monopole, on extrait des rentes de ses consommateurs. Ça, c'est un exemple de ce type de revenu. Donc, il y a un certain pouvoir, il y a quelque chose qui nous permet d'extraire plus que ce qu'on produit soi-même.
Donc, il y a des cas où ce serait légitime de taxer à 80% et d'autres non?
Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est un argument de si ça, donc ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est s'il y a énormément de rentes dans l'économie, et surtout si ces rentes sont très concentrées dans le haut de la distribution, dans ce cas-là, ça justifierait un impôt qui est, entre guillemets, correctif. C'est-à-dire un impôt qui va, en fait, pouvoir redistribuer des revenus, diminuer des rentes, et donc qui sera moins nocif pour l'économie, puisque si c'est des rentes, ça aura beaucoup moins d'effets négatifs sur la croissance et d'autres variables comme la productivité. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout clair que ce soit le cas qui est pertinent. Dans l'article, il y a toute une rangée de taux possibles en fonction de la force de ces rentes. Et ces taux vont de 25% à 80%. Donc, on n'est pas du tout partisan pour un taux ou un autre. On essaye simplement d'illustrer quelle pourrait être une rangée d'impôts en fonction de la force des rentes. Et donc, une question empirique, c'est-à-dire dans les données très importantes, c'est où sont les rentes? Est-ce qu'il y a des rentes fortes? Est-ce qu'il y a des pouvoirs de monopole qui font que les gens extraient plus de revenus que ne leur sont dus purement par leur effort et leur travail. Mais ça, c'est une question entièrement ouverte. Donc, je ne suis pas du tout partisane d'un taux de 80%, d'ailleurs d'aucun autre taux, puisque mon travail, c'est purement un travail scientifique et pas du tout un travail politique.
Ces monopoles peuvent se constituer et perdurer après une innovation. Et alors ça, c'est une grande part de votre travail, le lien entre fiscalité et innovation. On va écouter un autre économiste que vous connaissez bien, Philippe Aguillon.
L'innovation, elle ne tombe pas du ciel. L'innovation provient d'activités entrepreneuriales. C'est des entrepreneurs qui investissent dans la recherche-développement, dans les qualifications pour générer de l'innovation. Et en général, ils le font parce qu'ils espèrent retirer des bénéfices de l'innovation. Donc si par exemple, on est dans un environnement où il y a de l'hyperinflation qui va bouffer tous les profits, ou si on est dans un environnement où on vous exproprie, comme au Zimbabwe, eh ben là, il n'y a pas d'incitation à innover. Donc c'est très intéressant cette idée, c'est que en fait l'incitation à innover, elle vient de l'environnement institutionnel qui fait que et les politiques économiques qui font que on vous encourage à innover. Si par exemple vous êtes dans un pays où les impôts sont excessifs, et évidemment vous n'aurez pas envie d'innover puisque vous dites toute l'argent que je vais générer va partir en impôts. Donc ou si j'ai pas d'infrastructure, je voudrais peut-être pas innover. Donc il faut la politique économique et les institutions économiques sont importantes parce qu'elles influent sur les incitations à innover.
Ce que l'on comprend ici, Stéphanie Stancheva, c'est que la fiscalité peut avoir un effet positif ou négatif sur l'innovation.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un des grands thèmes que j'étudie. Donc, quel est l'effet des taxes sur l'innovation? Et exactement comme l'a dit Philippe, derrière chaque innovation et progrès technologique, il y a des cerveaux, c'est-à-dire des inventeurs, des scientifiques, des personnes. Et les inventeurs ne sont pas forcément tous des scientifiques fous, passionnés par leur recherche au point d'ignorer toute réalité économique. En fait, la plupart travaillent dans des entreprises et réagissent ou sont forcés de réagir aux incitations économiques, aux incitations financières.
Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un certain nombre d'inventeurs dits superstars qui étaient très sensibles à l'imposition, justement.
Absolument. Donc, on a fait une grande étude nous-mêmes, donc moi avec quelques co-auteurs, dans les temps modernes, donc depuis 1975, sur la localisation des inventeurs, surtout les superstars. Donc, les inventeurs qui sont très prolifiques, qui ont les meilleures inventions, très importantes. Est-ce que ces inventeurs vont se délocaliser suite à des augmentations d'impôts? Et c'est très important de regarder ça rigoureusement parce que jusque-là, la seule chose qu'il y avait, c'est beaucoup d'anecdotes. Et le pluriel d'anecdotes, ce ne sont pas ce ne sont pas des statistiques. Donc, pensez au débat qui a suivi le départ, par exemple, de Gérard Depardieu pour la Belgique, puis pour la Russie, en protestation contre la taxe 75%. Et dans les années 70, les Rolling Stones sont venus en France pour des raisons d'impôts. David Bowie s'est exilé en Suisse, Ringo Starr à Monte Carlo, etc. Et donc, il y a plein d'anecdotes, mais on n'avait vraiment pas de bonnes statistiques et de bonnes études rigoureuses qui disent est-ce que les gens partent suite à des impôts.
Alors que maintenant, donc, vous l'avez prouvé scientifiquement.
Alors, on a fait une étude récente et on regarde systématiquement la migration des personnes très éduquées et payées, donc ces inventeurs qui sont des superstars, depuis 1975, entre 8 pays, dont la France. Et on trouve qu'effectivement, ces inventeurs, donc les meilleurs innovateurs, les plus productifs, sont sensibles aux impôts trop élevés sur leurs revenus et ont tendance à bouger vers des pays avec une imposition plus légère. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a des effets qui contrebalancent tout ça. Donc, les inventeurs se soucient pas seulement des impôts, bien sûr. Il y a plein de choses que ces impôts permettent de faire et que les inventeurs valorisent énormément. Donc, par exemple, les inventeurs se soucient énormément de qui d'autre est dans le même pays ou au même endroit qui travaille dans leur même domaine. Combien d'entreprises il y a dans cet endroit-là. Donc, il y a un peu des effets de coordination et des effets d'agglomération et toute une infrastructure d'innovation qui est très importante. Et parfois, c'est justement des impôts qui permettent d'investir dans tout ça. Donc, il y a un effet clairement négatif des impôts, mais il peut être contrebalancé par de bonnes infrastructures et si les dépenses sont en fait bien faites pour favoriser l'innovation.
Et c'est en cela que la fiscalité, selon vous, peut soutenir l'innovation. Mais alors, quel bilan est-ce qu'on peut faire, par exemple, du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a été mis en place en 2013? Est-ce que cela a vraiment favorisé l'innovation?
En fait, j'ai pas fait d'études sur le CICE, mais j'ai vu plusieurs études qui ont été faites par de très bons chercheurs en France. Et il semble que, pour l'instant, mais c'est encore relativement récent, pour l'instant, on ne peut pas vraiment détecter de grands effets sur l'innovation. Mais il faut penser au fait que la façon dont on mesure l'innovation, c'est à travers des brevets, normalement, des brevets qui sont déposés, et ça prend du temps. Et donc, c'est possible qu'on ait des effets un peu plus long terme. L'autre complication avec des crédits d'impôt recherche en général, c'est que c'est assez difficile de vérifier que les dépenses qui sont classifiées sous dépenses de recherche sont effectivement des dépenses de recherche. Et donc, il y a toute une complication là pour cette implémentation. Mais je n'ai pas vu d'études qui disent de façon très convaincante, oui, ça a eu un grand effet sur l'innovation.
Et alors, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, donc, comme on le disait, la fiscalité peut soutenir l'innovation, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'en même temps soit menée une politique concurrentielle qui évite la persistance des monopoles, ces monopoles dont vous parliez tout à l'heure?
C'est en fait un des grands dilemmes de l'innovation. Pour donner les incitations d'innover, il faut bien promettre quelque chose. Et donc, tout le système actuel de propriété intellectuelle est basé autour du système de brevet. Qu'est-ce qu'un brevet? C'est quelque chose qui donne un monopole à l'inventeur, que ce soit l'entreprise ou un inventeur individuel, pouvoir exploiter cette innovation. Donc, une fois que ce brevet est donné, il y a un pouvoir de monopole qui est créé jusqu'à ce que le brevet expire. C'est un bon système dans le sens où il donne de bonnes incitations d'innover, puisqu'il y a tout ce profit qui est promis pendant au moins quelques années. Et ça permet également de rendre publique l'innovation, c'est-à-dire sans avoir peur que quelqu'un nous la vole. D'autres personnes peuvent commencer à bâtir sur cette innovation et à améliorer les choses davantage ou à l'utiliser dans leur production. Et donc, ça permet de rendre publique l'innovation. Et donc, ça, c'est de très bons aspects. Le problème, c'est que ce pouvoir de monopole peut créer des problèmes. Et donc, en fait, il y a quelque part un équilibre à garder entre la longueur des brevets, entre le combien les brevets ont droit de protéger au sein d'une innovation, à quel point est-ce qu'on peut demander à l'entreprise de rendre l'innovation exploitable par d'autres entreprises. Donc, il y a plein d'outils politiques qui sont en jeu et qui sont à utiliser là. Mais c'est un dilemme fondamental, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce sera impossible de trouver un système qui donne des incitations et ne donne aucun pouvoir de monopole.
Mmh. Autre dilemme, le fait de créer un système fiscal qui soit à la fois juste et lisible. Et ce que vous dites, c'est qu'en France, le système fiscal est trop complexe et que cela peut induire en erreur les petits entrepreneurs?
Oui, effectivement. Donc, une des choses sur laquelle je travaille, c'est sur toutes les données fiscales françaises. Donc, j'ai J'ai une superbe équipe au Collège de France avec des étudiants vraiment, vraiment superbes et Philippe Aguillon, entre autres, qui travaillent et font leur thèse. On a un accès sécurisé à des données fiscales, donc toutes les déclarations de revenus de tous les Français pour une dizaine d'années. Et je vous rassure, elles sont entièrement anonymisées. Donc, je ne peux retrouver personne en particulier dedans. Mais dans un des projets, on regarde les régimes fiscaux et sociaux auxquels sont sujets les entrepreneurs en France. Donc, pensez au régime de la micro-entreprise ou le régime auto-entrepreneur. Donc, le souci majeur pour introduire ces régimes, c'était en fait de rendre la vie des entrepreneurs plus simple. Et paradoxalement, en fait, pour comprendre tout ce système entier avec tous ces régimes, c'est en fait très complexe. Et ce qu'on montre, c'est que la complexité a un vrai coût. Donc, les entrepreneurs ne choisissent pas toujours le bon régime en vue de leur situation. Et encore plus que cela, ce coût peut en fait être régressif. C'est-à-dire qu'on montre que c'est les personnes les moins éduquées, aux bas revenus, qui en fait font le plus d'erreurs dans leur choix de régime et qui perdent le plus d'argent, alors que les personnes les plus éduquées, avec des plus hauts revenus, donc de plus grandes entreprises, choisissent très bien leur régime et optimisent beaucoup mieux leur fiscalité.
Donc, il y a un enjeu informationnel important.
Exactement. Donc, je pense que y a un vrai argument pour plus d'informations et d'éducation aux gens en matière d'impôts. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire moi-même avec toutes ces enquêtes et ces expérimentations en ligne. Également, j'essaye d'écrire des choses pour le grand public. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus généralisé et fait et par le gouvernement de façon bien neutre et bien non partisane, éduquer les gens en matière d'impôts.
Je voudrais qu'on parle d'un tout autre sujet, Stéphanie Stancheva, qui est la sous-représentation des femmes dans la discipline économique. Quand Esther Duflo a reçu le prix Nobel, on a dit que c'était seulement la deuxième femme à recevoir le prix Nobel après Elinor Ostrom. Et je voudrais d'abord vous faire entendre Béatrice Cherrier.
Quand on réfléchit sur la place des femmes en économie, ce qu'on se pose comme question, c'est la question de est-ce que le marché du travail des économistes fonctionne bien? Et les économistes, eux, ils travaillent sur les fonctionnements du marché du travail. Et il y a toute une partie des économistes qui ne croient pas, par exemple, que la discrimination soit un phénomène qui soit permanent. C'est ce qu'on appelle les théories beckeriennes. Ça consiste à dire que si une femme est discriminée alors qu'elle est douée, bah forcément quelqu'un va l'embaucher et du coup va avoir de meilleurs résultats et donc la discrimination va disparaître. Et donc les économistes, je pense qu'il y a quand même quelque chose en économie qui est à l'arrière de leur tête. Les économistes ont souvent des préconceptions sur l'efficacité du marché du travail, y compris le leur, et se disent au bout du compte, bah en fait une femme, s'il n'y a pas plus de femmes en économie, c'est soit qu'elles sont moins douées, soit qu'en fait leur préférence, c'est-à-dire ce qu'elles attendent dans la vie, ça les pousse à pas vouloir ce genre de métier, et donc il n'y aurait pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que après ce mouvement dans les années 70-80, il y a eu un espèce de backlash, puis ça a stagné, et puis les chiffres de représentation féminine ont à nouveau diminué, parce qu'on s'est complètement endormi, peut-être parce qu'on pense que le marché y pourvoira, quoi.
Voilà l'économiste Béatrice Cherrier qu'on avait reçue dans Entendez-vous l'écho il y a quelques semaines. Quel regard est-ce que vous portez sur cette sous-représentation des femmes dans la discipline économique, sous-représentation qui persiste, Stéphanie Stancheva?
Alors, c'est vrai qu'il y a une sous-représentation et surtout en fait dans les très très bonnes universités et dans des très bonnes positions. Donc c'est pas une question à débattre, c'est sûr qu'il y a une sous-représentation. Mais les causes sont clairement multiples et ça va prendre beaucoup de temps de changer les choses. Donc, je ne suis pas du tout de la vue beckerienne qui est que le marché va s'en occuper et tout va aller très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas exactement quelles sont toutes les choses à faire, mais il y a des interventions à faire à beaucoup de niveaux.
Parce que ce qu'on constate, simplement, c'est que, par exemple, aux États-Unis, il y a de moins en moins de femmes au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, et notamment, il y a très peu de femmes parmi les professeurs qui bénéficient d'un emploi à vie, ce qu'on appelle la tenure. Comment est-ce qu'on explique cette déperdition au fur et à mesure des étapes de la carrière des femmes ?
Alors, je pense que ce phénomène est vrai dans beaucoup de professions, où on voit, en fait, plus on monte dans la pyramide, moins on retrouve des femmes. Je pense qu'il y a une explication différente à chaque étape, mais clairement, à chaque étape, il se passe quelque chose qui fait que les femmes partent, soit de façon contrainte, soit de façon plus ou moins volontaire, mais ça se voit dans beaucoup, beaucoup de professions, pas seulement en économie. Et je vois des interventions à faire depuis le départ. Donc, à commencer par comment on forme les étudiants, même au niveau undergraduate. Là, déjà, avoir des exemples de profs femmes, c'est quelque chose qui, en fait, influence énormément. Je n'y croyais presque pas avant de voir plein de résultats de recherche et de voir des expériences personnelles également là-dessus. Ça influence énormément les gens de voir des exemples de personnes qui font un métier et qui sont des femmes, par exemple.
Et justement, votre parcours particulièrement fulgurant peut avoir un impact et jouer un rôle de modèle. Ça fait partie des choses qui font avancer, en tout cas, cette question de la sous-représentation des femmes.
Alors, ce qu'on voit dans ces recherches, c'est qu'avoir une sorte d'exemple comme ça qui a réussi, et c'est vrai d'ailleurs aussi pour les minorités, donc c'est pas que vrai pour la question homme-femme, c'est également vrai pour les immigrants ou pour des minorités, etc. Voir une représentation de son groupe dans une position, ça donne la perception qu'on pourrait y arriver aussi. Donc ça, c'est très important, clairement. Il y a tout un effet de cascade positive qui va se passer, c'est que plus il y a de femmes également, plus elles vont également changer les méthodes de coaching, de mentoring des étudiants, et elles vont faire ça aussi un peu mieux, je pense, qu'avec les étudiants qui sont des femmes. Et je pense que ça va créer un cercle vertueux, mais qui va prendre du temps. Et la chose à laquelle il faut penser aussi, c'est un peu plus loin dans la carrière, et ça, je pense que c'est quelque chose qui se passe dans les autres professions aussi. Une fois qu'on commence à avoir des familles, des enfants, etc., là, il y a plein de phénomènes sociaux et économiques qui font que encore le rôle tombe énormément sur les femmes de façon disproportionnée.
Et qui dépasse le domaine des économistes, oui, en effet.
Complètement.
Alors, vous êtes devenu professeur d'économie à Harvard peu de temps après votre thèse. Comment est-ce que vous expliquez, Stéphanie Sancheva, que vous ayez obtenu ce poste aussi vite ?
Je n'ai pas l'explication parfaite. Comme on n'a qu'une seule observation, c'est difficile de faire une analyse empirique rigoureuse. Mais j'ai énormément de chance de pouvoir avoir ce travail. Et mon but, c'était de vraiment travailler le plus dur possible pour pouvoir utiliser cette chance que j'ai pour améliorer les choses. Donc, être dans une position comme ça, c'est vraiment, je pense, d'après moi, ça donne un devoir de faire de très très bonnes recherches et beaucoup de recherches qui peuvent informer des politiques et améliorer les choses pour beaucoup de personnes. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois.
Et en même temps, ce qu'on constate, Stéphanie Sancheva, c'est que il y a énormément d'économistes français qui partent aux États-Unis. C'est aussi votre cas. Comment l'expliquer ? Est-ce que il faut en conclure que la France, finalement, n'a tout de même pas assez investi dans l'enseignement supérieur en économie ?
Je pense que l'explication majeure, c'est que les États-Unis ont simplement énormément investi. Les États-Unis ont un modèle d'éducation supérieure complètement différent, et c'est très difficile de dire lequel est le mieux, parce qu'aux États-Unis, l'université coûte extrêmement cher. Et donc, les étudiants qui peuvent en fait se permettre d'aller à l'université, c'est des étudiants qui viennent de familles aisées, ou alors des étudiants qui prennent des prêts énormes, qui vont repayer pendant très longtemps. À cause de ce coût de l'université, qui s'accumulent dans le temps, donc les universités accumulent une fortune, une richesse de laquelle elles tirent ensuite des dividendes et des intérêts. Et les universités arrivent en fait à payer des salaires beaucoup plus élevés, à donner des fonds de recherche beaucoup plus importants. Et il y a aussi tout un groupe de philanthropes, de personnes qui soutiennent la science avec des donations, qui est également un modèle très différent de ce qui se passe en Europe. Donc tout le système est en quelque sorte différent. C'est très difficile de dire lequel et mieux, parce qu'en Europe, tout le monde arrive à aller à l'université si on en a envie, c'est pas aussi cher. En même temps, il y a beaucoup plus de fonds pour la recherche aux États-Unis, et c'est ça qui attire les chercheurs, c'est simplement d'avoir les moyens de pouvoir faire la recherche sans devoir se soucier d'où viendront les fonds pour le prochain projet, etc. Donc ça, c'est clairement l'attraction majeure des États-Unis, et je pense que c'est la raison principale pourquoi les chercheurs viennent ici.
Et quel rôle jouent les publications pour obtenir un poste, pour gagner en visibilité ? Vous allez devenir l'année prochaine éditrice du Quarterly Journal of Economics, qui est une revue scientifique du top 5 mondial. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce monde des revues et de l'importance que cela a ?
Alors, il y a beaucoup de types de revues différentes, même au sein des revues académiques. Certaines sont de censées être d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles intéresseraient tous les économistes, peu importe leur spécialisation. Et ces revues essayent de publier des choses qui vraiment font avancer l'économie en entier, qui ne sont pas forcément très spécialisées. Il y a ensuite des revues beaucoup plus spécialisées dans chaque domaine, par exemple en économie publique, qui publient des choses qui sont vraiment très intéressantes pour les économistes qui travaillent dans ce domaine, peut-être moins pour des économistes qui travaillent dans d'autres domaines. Donc il y a déjà cette grande distinction. Le rôle que jouent ces revues, et en fait, a changé au cours du temps et c'est toujours une discussion qui est toujours là. Est-ce que c'est le meilleur système qu'on a pour diffuser la recherche? Le but ultime, c'est de vérifier que les recherches sont correctes. C'est pour ça que dans les revues scientifiques, il y a tout un processus de refereeing où on envoie l'article à des personnes qui sont anonymes du point de vue de l'auteur et qui vont revoir le papier et dire est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que cela est juste, est-ce que cela est pertinent. Il y a la première partie qui est de dire que les résultats sont justes et pertinents, et la deuxième partie qui est ensuite de pouvoir diffuser cette recherche à un plus grand public. Et ce n'est pas clair que ce soit le meilleur système pour faire ça.
Quels sont les problèmes que ça pose ?
Le problème que ça pose, c'est que le nombre d'économistes grandit, le nombre d'articles écrits grandit, mais les journaux n'ont pas forcément plus d'espace et plus de pages pour pouvoir publier tous ces résultats. Donc il y a déjà un problème d'accès qui est qu'en fait, très peu d'articles arrivent à être publiés dans des très bonnes revues et donc à être visibles. Et il y a plein d'articles qui sont très bons et qui n'arrivent pas à être aussi facilement publiés. Donc ça, c'est un des gros problèmes. L'autre problème, c'est qu'il y a des humains dans tout ça. Donc ce n'est pas des machines qui prennent les décisions. Et donc il y a toujours un souci avec, par exemple, avec les revues anonymes. Est-ce que les gens sont effectivement tout à fait objectifs ou est-ce qu'eux-mêmes ont un intérêt à ce qu'un article soit publié ou pas. Donc il y a toujours une erreur humaine qui est là. Et donc ça resterait un problème. Mmh. Il y a aussi un autre grand problème qui est que ça prend énormément de temps. Les délais de publication sont en fait énormes en économie. Dans les sciences, les articles sont très courts et le processus de revue se passe très très rapidement. Et donc les résultats sont publiés très très vite après leur création. En économie, ça prend parfois des années.
Et c'est pour cela qu'il faut attendre parfois, enfin en moyenne, 6 ans avant d'obtenir un emploi à temps plein, parce que ça va dépendre justement des publications dans les revues.
Exactement, ça prend énormément de temps et donc il faut laisser du temps aux gens de pouvoir en fait publier leurs articles qui peuvent avoir été écrits il y a en fait assez longtemps. Et une des façons qu'ont trouvé d'autres disciplines et qui se fait de plus en plus en économie, c'est de mettre en ligne dans des working paper series, dans des documents de travail, des articles qui sont pas encore publiés mais qui peuvent être diffusés, que les gens peuvent déjà lire. Et donc une grosse partie de la diffusion maintenant se passe comme ça. Et si quelque chose est intéressant, ça sera vu, ça sera lu bien avant d'être publié.
On parlait tout à l'heure, Stéphanie Sancheva, des erreurs de perception que les individus peuvent avoir. Et l'une de ces erreurs concerne les migrations.
Les pays les plus pauvres ont les taux d'expatriation les plus bas. Les pays à revenus intermédiaires ont les taux d'émigration les plus élevés. Et quand on rattrape les pays développés, on diminue son taux d'expatriation et on devient, comme l'Espagne, le Portugal le furent, des pays d'immigration. Quand on décompose le taux d'expatriation par niveau de qualification, on observe l'inverse. C'est-à-dire que plus on est un pays pauvre, plus le taux d'expatriation des qualifiés devient extrêmement élevé. C'est en moyenne 50% pour les pays très pauvres. Et c'est amplifié pour les professions médicales, par exemple les médecins, les infirmières, etc. Et donc on a un effet de surreprésentation des qualifiés dans les migrations et des surreprésentations de femmes. Donc non seulement les migrants qui arrivent sont relativement plus qualifiés que les natifs, mais en plus les femmes sont surreprésentées parmi ces migrants. Et ce n'est pas connu parce qu'il y a un problème de distorsion entre les catégories juridiques dans lesquelles on met les migrants, par exemple les migrants qui arrivent des réfugiés, ils sont mis dans des situations où ils donnent les impressions, parce qu'ils sont très précarisés sur le plan juridique et sur le plan de leur statut, ils donnent l'impression d'être des peu qualifiés. En réalité, ils sont, la plupart d'entre eux, très qualifiés.
L'économiste El Mouhoub Mouhoud, qui est spécialiste des migrations, que vous inspirent ces propos, Stéphanie Stancheva?
Alors, l'immigration, c'est en fait un des autres sujets que j'étudie, et je l'étudie surtout sous l'angle de qu'est-ce que ça fait sur les politiques redistributives, quel est l'effet de l'immigration sur le genre de politique qu'on veut ou qu'on veut pas. Et c'est un effet, en fait, très, très fort. Donc, ce que je vois dans les grandes enquêtes que je fais, c'est que les gens préfèrent vraiment contribuer et payer des impôts si c'est pour aider des gens similaires à eux-mêmes. Et ils ont vraiment une réticence à contribuer si ça bénéficie surtout aux immigrants et aux minorités. Et on a fait cette grande enquête sur des milliers de personnes dans ces pays. Et on montre que les gens soutiennent beaucoup plus de redistribution s'ils pensent qu'il y a moins d'immigrants dans leur pays. Ces immigrants travaillent dur et sont plus similaires à eux en termes de religion, d'ethnicité, etc.
Mais justement, il y a des biais de perception très importants sur ces immigrants.
Très, très importants. Donc, les biais de perception ici sont complètement flagrants et c'est le cas dans tous les pays. Donc, les gens en France et dans les autres 5 pays également pensent systématiquement qu'il y a beaucoup plus d'immigrants qu'il y en a. que ces immigrants sont beaucoup plus au chômage, beaucoup plus faibles économiquement, beaucoup plus pauvres, moins éduqués, également de religion et d'origine très très différentes d'eux. Donc il y a un énorme biais de perception et qui en fait fait que les gens n'aiment pas du tout l'idée de donner plus de fonds, plus d'impôts pour redistribuer envers des gens pauvres, puisqu'ils pensent que ça bénéficie énormément aux immigrants.
Vous disiez que vous teniez au rôle scientifique des économistes. Est-ce que leur rôle peut être plus tard, éventuellement, de s'engager davantage en politique, et est-ce que ça pourrait vous tenter ?
Pour les économistes en général, je ne sais pas, ça dépasse le rôle d'économiste académique en soi, mais beaucoup de gens le font et le font plus ou moins bien. Pour moi, je pense que, en tout cas pour l'instant, mon ambition est vraiment scientifique. J'ai envie de contribuer à la recherche. J'ai encore énormément de projets que j'ai envie d'étudier, que ce soit en France, aux États-Unis, avec ces enquêtes sur l'innovation, la fiscalité. Donc j'ai énormément de projets que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, mon rôle, c'est restera purement scientifique.
Et un dernier mot, justement, Stéphanie Sancheva, sur aujourd'hui le rôle de l'économiste et peut-être sur vos prochains travaux et vos prochains domaines de recherche.
Alors, je pense que une des questions qu'on me pose très souvent et qui pour moi un peu résume également le rôle des économistes, c'est alors quels doivent être les impôts ? Est-ce qu'il faut baisser les impôts ? Il faut les augmenter ? Et comme dans chaque optimisation, le bon niveau d'impôt est vraiment déterminé par une équation où à gauche on a les bénéfices, les bonnes choses qu'apporte l'impôt, par exemple les gains en équité, et à droite on a les coûts, par exemple les effets nocifs sur l'innovation, sur l'économie. Et vraiment, les économistes ne peuvent que informer le côté droit, c'est-à-dire ses coûts. On peut aider à comprendre les taxes, les transferts en se basant sur des modèles, des données économiques, comme je vous les ai décrites. Et plus on a de meilleures données ou modèles, mieux on pourra quantifier ces effets. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est déterminer quel doit être l'objectif social et quel point on doit mettre sur l'égalité. Donc les paramètres qu'il nous faut aussi, c'est ce que chaque société considère comme étant équitable et combien d'inégalités elle veut tolérer. Et mon travail à travers les enquêtes apporte des éléments de réponse sur les attitudes sociales. Mais ensuite, c'est vraiment le rôle des politiques d'agréger ces préférences et de déterminer l'objectif social qu'on souhaite atteindre et qui va varier de société en société.
Merci Stéphanie Sancheva d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis votre bureau à l'université d'Harvard à Boston. Vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur notre compte Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.